Oui, c'est dans le salon 1846.
Est-ce qu'il faut que je reprenne, Anne-Sophie? Il faut que je reprenne, alors. Je réinterprète mon propre rôle. Je repose la question en disant héroïsme et pompe font un drôle de couple, puisqu'on l'héroïsme pourrait être interprété du côté du dandy et de l'individu, et du côté du dandy, du côté de l'anti-égalitarisme, et la pompe, au contraire, du côté du collectif et de l'externalité de la vie sociale, quoi.
Tu as tout à fait raison. Mais tu as tout à fait raison. Mais on peut expliquer ça par rapport à l'évolution de la pensée de Baudelaire. Quand Baudelaire parle de l'héroïsme de la vie moderne, et dans le salon 1846, dans ce salon, l'exemple de l'héroïsme de la vie moderne est Rastignac sur les héros de Balzac. Mais, attends, à ce moment, Baudelaire pense tout à fait que c'est possible une éducation esthétique au niveau saint-simonien pour l'élévation de l'esprit. Il écrit ses préfaces aux bourgeois, voilà. Il confie à ça, encore. Il confie sur l'idée de certes, transmission passionnée des émotions, dit Raymond, qui est tout à fait différent de ce que va être l'imagination plus tard pour Baudelaire. Ça veut dire de quelque chose qui est lié à Balzac, il y a certains romantismes encore, non? Ça veut dire l'avant-propos de la comédie humaine, une analyse de la passion comme le nexus de la vie. Ça veut dire qu'il y a une connexion dans la totalité. Non? Ça veut dire tout est connecté à ce niveau. Comme quelque chose de naïveté romantique. Mais quand on parle dans 1859, en 1859, où il ne parle pas de l'héroïsme de la vie moderne, il parle pas de la vie moderne, exactement ce qu'on trouve, que ces constellations ont disparu. Et c'est que ces constellations ont disparu. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver ces liaisons avec la totalité à l'extérieur. C'est ça qui est vraiment, pour moi, étonnant. C'est ça le mouvement qui est vraiment, pour moi, intéressant. C'est la même chose que quand on trouve la pompe à l'intérieur de la composition ou à l'extérieur. Dans Delacroix, c'est évident, non? C'est l'héritière d'une grande tradition. Tout est à l'intérieur. C'est publicité, c'est collectivité est donnée. Il ne faut pas la chercher. C'est un peu, d'une certaine façon, la même chose. Mais bien sûr, c'est une très, très intéressante question parce que c'est vraiment le vrai problème. Non? Qu'est-ce qui a passé? Qu'est-ce qui a changé qu'on ne trouve pas? Et il faut penser que Demestre a apparu. Et Baudelaire lisait Demestre et Poe. Et Demestre, tu sais, Demestre commence à dire que, tu sais, pour les romantiques, il y a des antagonismes dans la nature, mais ils vont se réconcilier finalement d'une façon utopique. Mais avec Demestre, c'est pour ça que Isaiah Berlin parlait de Demestre comme des origines du fascisme, parce que Demestre dit, non, il y a des antagonismes dans la nature, et ils vont continuer comme des antagonismes toujours, jamais réconciliés. Il n'y a pas de naïveté utopique romantique. Et Baudelaire a lu Demestre. Et il aime Demestre. Et Poe. Et il parle du désert des hommes quand il parle dans le peintre de la vie moderne. Les déserts des hommes ne sont pas plus des personnages de Balzac. Parce que les personnages de Balzac sont animés par la passion collective. Mais les déserts des hommes, le peintre de la vie moderne, pas. Donc c'est ça exactement le mouvement qui pour moi est vraiment intéressant. Et au niveau historique plus fort, c'est l'horizon après les révolutions.
C'est exactement ça. D'une certaine façon, l'extériorité devient tout d'un coup l'extériorité est extérieure. C'est un peu ça, au fond.
Pour la première fois.
C'est-à-dire, c'est un peu ça la chose. D'ailleurs, Foucault a assez bien repéré la chose dans les mots et les choses, hein, puisqu'il dit au fond, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe au tournant du XVIIIe siècle? Il se trouve que tout d'un coup, le sujet humain doit s'arrimer au monde qui lui est complètement extérieur. Et comment il va arriver finalement, de cette façon, à s'accrocher à ce monde dans lequel il n'est plus. Et au fond, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc le sujet qui était jusque-là, j'allais dire, hérité, c'est-à-dire, il y avait des sujets, et les sujets, on en héritait, c'était des legs, voilà. Tout d'un coup, le sujet, il faut le trouver dehors. Opération invraisemblable. Et moi, ça me fait quand même beaucoup penser à la question de la photographie, puisqu'au fond, dans la photographie, vous avez le réel. Vous avez le réel et vous impressionnez le réel. C'est-à-dire qu'au fond, il y a bien du dehors. Au fond, qu'est-ce que c'est que le dehors qui serait purement dehors, sinon le réel? Et c'est un peu comme si Baudelaire rêvait de la photographie, qu'il rejette par ailleurs. Fondamentalement, moi, c'est un peu mon hypothèse de travail. C'est qu'au fond, il est travaillé par la question de la photographie. c'est-à-dire au fond par la nouvelle, le nouveau paradigme, hein, qu'est la photographie, pas seulement comme technologie de représentation du monde, ou comme d'ailleurs technique scientifique, hein, mais également, j'allais dire, comme modèle métaphysique, hein, où tout d'un coup l'extérieur est bien extérieur, puisque c'est le réel qu'on peut simplement impressionner sur une plaque sensible, et dont il n'y a strictement rien à dire, et qu'on ne peut évidemment pas hériter, c'est-à-dire qu'il est là par hasard. Et au fond, les sujets de Constantin Guy, c'est un peu ça. Hein. Il faut saisir ce qui passe. Hein. Et le réel, c'est cet effet de tuquet, quoi. Hein. C'est la contingence dans ce cas-là d'absolument, disons. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, plutôt que se dire, finalement, la modernité baudelairienne, ce serait cette espèce de modernité introuvable?
C'est
rien. Hein, voilà. Dire, au fond, la modernité que Baudelaire avait sous la main, mais qu'il n'a pas vue, de façon saisie au vol, c'est ce réel que la photographie lui offrait sur un plateau. Alors là, c'est un peu de la provocation, mais...
Voilà. Non, mais ça, c'est... Bon. Si on parle exactement de ce que Baudelaire dit, bon, il y a tout à fait une chose, c'est vrai, non? Comme Roland Barthes disait, de la photographie, il y a la première fois, il y a la trace du réel, ok, il y a le punctum et le studium et tout ça, et il y a le punctum, et après, tu peux les donner des codes. Mais les codes, c'est une chose qui te donne après. Mais, ça c'est vrai, mais il y a une différence, toujours. Il y a toujours une différence. Il faut penser que dans la peinture, même abstraite, les premières, ça veut dire la représentation même est construite par la trace d'un corps. C'est le degré zéro. La peinture est anthropomorphique au niveau zéro. Parce que le premier pas de la peinture est la trace d'un corps. Mais la photo, pas. Les codes viennent après. Il y a une soustraction d'ordre réel au niveau physique. Au niveau physique, non?
Et donc, ça veut dire que la peinture est anthropomorphique parce que la trace d'un corps n'est pas anthropomorphique.
Oui, mais bon... Bon, oui, mais tu parles au niveau de ce qu'on représente. Mais il y a de toute façon une différence. Ça veut dire, les codes sont... la peinture est artificielle, toujours. Ça veut dire artificielle dans le sens humain. Ça veut dire toujours une construction humaine, toujours. Mais la photo, on peut laisser, je me rappelle maintenant de la photo, la caméra vidéo, je me rappelle maintenant du film de Wim Wenders, Lisbon Story, quand Fellini, qui est le personnage caché, marche à Lisboa pour faire un film, et il met sa caméra derrière, et il ne regarde pas ce qu'il filme. Il marche. Et la caméra enregistre des choses, il n'existe pas. Type n'existe pas et enregistrer des choses. Mais avec la peinture, non. Tu toujours existes, parce que tu toujours fais les gestes. Donc, et même si c'est vrai que c'est clair que la photographie va signifier exactement un moment où la substantivité du monde est d'une certaine façon pas culturellement construite, c'est complètement extérieur et on va le dire un peu banal au commencement, non? Ça veut dire ce que Barthes disait de la photo en plus. Barthes disait que c'est une menace si forte pour la culture parce que c'est un rapprochement extrêmement fort entre nature et culture. Non? C'est pour ça qu'il trouvait toujours ces sensations de mort dans la photo et tout ça. Ça, c'est vrai d'un côté. Mais de l'autre côté, Baudelaire pense toujours à la peinture et toujours pense à la trace et à ces traces du corps. Non? Donc, si dans un niveau général, on parle finalement d'un monde qui est en train de perdre sa substantivité dans le sens où il n'y a pas une actualisation d'un rituel collectif hérité chaque jour, d'une culture héritée chaque jour, blablabla, mais peut-être la reproduction d'une extériorité banale, comme dans la photo, même si au niveau général on peut dire ça. Et si on parle exactement de Baudelaire, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il toujours parle, d'une chose qui commence par un geste, et qu'il va toujours relier à la physicité du corps, et à le désir et à l'inconscient, donc bon, je ne sais pas si m'expliquer très bien, non, dans un niveau général, si on parle exactement de Baudelaire. Mais bon, une autre chose, c'est comme cette extériorité qui passe au niveau général et intériorisée dans les textes, non? Ça c'est un peu aussi les bouts du séminaire, donc, comment penser ça?
Tout à fait, la question c'est vraiment une question du statut d'extériorité.
Oui, bon. Pas
tout à fait. Non, mais c'était voilà. Non, mais je reprécisais la question. Hein. C'est-à-dire, étant donné que bien sûr, il n'y a pas de critique sans la critique est toujours la critique de l'intériorité, c'est-à-dire qu'elle part toujours de l'intériorité. Mais ce qu'elle a gagné, d'une certaine façon, si elle veut se définir en dehors du paradigme, on va dire, dont nous avons hérité, c'est quelque chose comme une extériorité. Mais ça, c'est pas ce dont tu parles. Je voulais quand même revenir sur la question du monde. Hein, parce que l'homme du monde, qu'est-ce que c'est que le monde ? Parce que là aussi, il y a ces sources de mésinterprétations.
Bon, oui. Une fois, je me rappelle, un jour, parler un peu sur ça, et c'est aussi une de ces questions intéressantes, une de ces questions au milieu de deux, peut-être de deux périodes, parce que c'est d'un côté, Baudelaire dit explicitement, le monde veut dire une connaissance de la planète, non, de ce qui passe dans la planète, et tout ça, et en plus, il parle de Costanguis, que c'est quelqu'un qui voyage, voilà, et qu'un journaliste, en plus. Mais de l'autre côté, c'est vrai que dans l'usage au XIXe siècle de la parole monde, on parle toujours du monde de certaines sociabilités à Paris, du monde aristocratique, du monde de certaines sociabilités qui vient peut-être hériter encore de vieilles formes aristocratiques et tout ça. Donc, et comme Baudelaire trouve chez Delacroix certaines des caractéristiques de Guise, par exemple sa conversation, sa parole, l'intérêt pour l'histoire est le même chez Guise et chez Delacroix. Donc ça, c'est une chose très intéressante, parce que Delacroix n'est pas quelqu'un qui voyage, il avait fait les voyages en Algérie, mais c'est pas quelqu'un qui connaît la planète, comme Constantin Guise, qui est toujours reporté, mais ils sont partagés, ces mêmes propriétés, non, de la parole savante, de la connaissance de l'histoire, de l'intérêt pour l'histoire, non. Et bon, peut-être quand Baudelaire utilisait le monde, faut travailler plus ça, mais parfois peut-être on parle simplement d'une certaine façon de sociabilité et de comprendre quel est le lien de l'artiste dans la société, ou plutôt quel est le lien de quelqu'un qui doit représenter l'histoire, qui ne veut pas parler d'un artiste. C'est peut-être quelqu'un lié à des formes de sociabilité qui ne sont pas exactement celles construites pour l'artiste au niveau de l'académie et pas celles construites pour l'artiste au niveau de la bohémie. Des années 40, non, là, c'est la bohémie de Courbet, c'est une bohémie très radicale, très liée à la politique, à la classe algérienne, et tout ça, non. Donc peut-être il est encore pensé sur quelque chose, sur une mission aristocratique, non, et qui est complètement différente de ce qu'il trouve maintenant. La question est qu'il ne la trouve pas plus, peut-être ça n'existe pas plus, et celui qui finalement il prend comme exemple n'est pas même un artiste, c'est un journaliste, Constantin Guise, non ? Donc, vraiment on a changé, mais d'une certaine façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et qui peuvent être expliquées par rapport à quel usage du mot monde, vraiment, et lequel Baudelaire vraiment on parle, mais il y a quelque chose comme une liaison entre les deux possibles usages au niveau de l'intérêt pour l'histoire, de la parole énergétique et de la conversation. C'est quelque chose qui manque à l'ère des artistes. C'est simplement une chose au niveau d'un artiste comme Delacroix ou un non-artiste comme Constantin Guise. Donc peut-être on parle d'une forme de sociabilité aussi.
Oui, parce qu'il y a c'est le voyageur, c'est celui qui fréquente la haute société. Et en fait, entre le monde donc, du spectacle, on va dire, hein, parce que le journaliste, c'est quand même le début des médias. Hein. Et le monde de l'aristocratie, de la restauration, c'est quand même assez loin. Hein. Et le voyage, qu'est-ce que c'était au milieu du 19e siècle, le voyage, au fond, hein, comme... c'est l'Amérique un peu. Donc c'est difficile en fait de se faire une idée de ce monde, hein, puisqu'on hésite entre l'ancien monde, un autre monde, c'est-à-dire l'exotisme, hein, ce qui est quand même très fort chez Baudelaire, et puis le monde moderne, enfin le monde qui advient, à savoir le monde des journaux. Et voilà, donc c'est vrai que là, je trouve qu'il y a vraiment une telle ouverture sémantique qu'on ne sait pas du tout ce que Baudelaire veut dire. Moi, j'aurais tendance à penser, si si on pense quand même que Constantin Guy est une espèce de, comment dire, d'autoportrait, disons, positif, hein, d'une certaine façon, c'est que c'est tous ces mondes à la fois. Et que Baudelaire, hein, c'est à la fois le beau-fils d'un hobereau, enfin, à la fois sa mère très très mêlée au milieu aristocratique, hein, donc au monde de la restauration, au monde militaire, etc. Mais en même temps, Baudelaire, c'est vraiment quelqu'un qui est en plein dans le côté people, hein, de la littérature de l'époque, hein, avec le côté scandale, hein, c'est vraiment, il est au cœur, véritablement, du monde moderne, marchand, hein, vraiment. Et puis Baudelaire, c'est également celui qui rêve de paradis perdu, qui couche avec les prostituées, etc. Enfin, qui est quand même dans une espèce d'existence très nomade, hein, d'existence dans un Paris qui est un Paris à moitié clandestin, à moitié réactionnaire et à moitié people. Hein. Donc c'est une figure extrêmement intéressante. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il a voyagé, hein, dans toutes les couches de la société de son époque, sauf peut-être dans le prolétariat.
Il me semble que c'est un truc qu'a bien vu Benjamin, puisqu'en fait, son livre démarre là-dessus, sur la question de la bohème,
et, oui,
et la façon dont c'est mêlé au milieu des conspirateurs.
Oui, ouais,
c'est-à-dire,
oui,
que, et j'ai l'impression que dans cette affaire de bohème, il y a l'idée, non pas d'un ascenseur social, mais l'idée que dans ce sous-prolétariat se retrouve en fait la totalité de la société par contiguïté. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut, par la bohème, on trouve les conspirateurs, et les conspirateurs, on trouve le pouvoir, et les pouvoirs, on trouve les dandys, etc.
Bon, on peut le comprendre comme ça, on peut dire ça peut-être, mais par exemple, peut-être dire que bon, mais Baudelaire, c'est une chose qui explique très bien Timothée Clark dans son livre sur Courbet. Baudelaire avait peur de Courbet et de la brasserie anglaise, littéralement. Donc il faut trop sensible pour ce type de choses. Il faut trop sensible pour ça. Il allait aux barricades, tu sais, en 1848, mais avec les motos, il faut tuer les généraux au pic. C'est la seule chose intéressante pour lui. Ça veut dire, il ne comprenait rien. Ça veut dire, toute la métaphysique du monde au niveau de l'éducation saint-simoniste, mais au niveau pratique, c'est bon. Absolument zéro. Son problème fut l'héritage familial, sa mère qui fut mariée avec un homme, et tout ce type de choses, non? Chez Baudelaire, concrètement, je pense qu'il est toujours un nostalgique de la bohème de Gautier, la première bohème de Hachis, de fumeur de Hachis, une bohème qui est tout à fait différente de cette deuxième bohème qui est liée avec les révolutions, qui est liée avec la politique tout dire, dans le cas de Baudelaire. Je me rappelle ce type de conditions nomades, d'exilés de Baudelaire au niveau empathique, un peu comme une blague, je peux dire que la chose la plus dure que j'ai jamais lue sur Baudelaire fut le titre d'un article publié, je ne sais pas, Libération, je ne sais pas où, je l'avais trouvé dans un livre ancien, j'avais acheté sur Baudelaire et j'avais trouvé un petit article très très bien avec le titre Baudelaire, une vie pour rien. C'est exactement une vie construite sur rien, non? C'est une chute constante. Même son idée de la modernité est construite sur rien, non? Il veut embrasser un monde qui est disparu et il faut reconstruire. Au niveau de l'imagination, un monde qui a disparu, il n'a pas un artiste, il n'a pas même un artiste, mais il construit comme cet artiste devrait être. Non, c'est quelque chose, au niveau empathique, c'est vraiment fort.
C'est très curieux, tu sais à quoi je pense, alors là c'est vraiment l'association libre, hein. En écoutant cette conversation, je suis en train de penser au film de Robert Bresson qui s'appelle « Le diable probablement ». Que j'ai toujours interprété comme une réponse à Rivette et à Godard, hein, ce qui est en fait une manière de représenter ce qu'a été, j'allais dire, la fronde étudiante, hein, ou les milieux étudiants, enfin, dans les années 70. Et c'est un film très très étonnant, puisqu'il prend pour jouer ses étudiants, hein, donc 68 arts, des jeunes aristocrates sublimement beaux, hein, qui portent tous des prénoms, disons, directement issus de la très très grande bourgeoisie voire de la noblesse, qui sont en même temps effectivement des conspirateurs, qui sont en même temps des poètes, qui en même temps sont plus ou moins des voyous, hein, une espèce de faune extraordinairement composite, mais avec une espèce de... quand même, c'est le grand style. Voilà, ce qui domine, hein, c'est que cette expérience que nous, on a enfin, qu'en général, on voit beaucoup à travers le filtre j'allais dire de la petite bourgeoisie, ou on va dire du déclassement en général, c'est-à-dire un Eustache, par exemple, il n'y a plus de classe sociale, en gros, il y a vraiment. Tout d'un coup, on revoit les mêmes scènes, mais vues à travers le grand style de la très grande bourgeoisie française. Et c'est extrêmement impressionnant parce que, au fond, moi, c'est un peu comme ça que je vois Baudelaire. C'est-à-dire, effectivement, moi, je pense que Baudelaire, il détestait. Il n'était pas petit bourgeois d'ailleurs, il était plutôt bourgeois. Il ne pouvait absolument pas. Et puis ce qu'il cherchait, c'était pas du tout à s'encanailler, hein, pas du tout. Il y avait une espèce de conscience extrêmement aristocratique quand même, hein, c'est-à-dire. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est intéressant parce qu'au fond, quand on regarde Bresson, et qu'on regarde maintenant cette représentation des années 70, je trouve qu'elle est extraordinairement pertinente. C'est-à-dire que on pourrait dire c'est une mésinterprétation totale, c'est une espèce de, je sais pas quoi, d'étrange sophistication esthétique, voire esthétisante, hein, sur un matériau historique qui ne peut pas la supporter. Et je crois que c'est entièrement faux. C'est-à-dire qu'en fait, ça rend parfaitement compte du déchirement d'un certain, j'allais dire, modus historique. Tu vois ce que je veux dire ? Qui était lui-même complètement éclaté. C'est-à-dire qu'au fond, hein, on fait toujours comme si le sujet, ça devrait être une consistance historique. Hein, c'est-à-dire comme si les objets historiques devraient être consistants. C'est-à-dire devraient être des objets. Et qu'est-ce qui nous dit, d'une certaine façon, qu'il n'y a pas une appréhension du sujet historique comme sujet et comme historique, mais dans son inconsistance, ou j'allais dire, dans ces, ce qui n'est même pas des tensions, j'allais dire, dans ces incohérences stylistiques, hein, ou dans ces incompatibilités, hein, le fait que le matériau historique, pourquoi on présuppose toujours qu'il serait cohérent, hein, c'est très curieux ça, au fond. Et on pourrait voir Baudelaire un peu comme quelqu'un qui a saisi dans la modernité une inconsistance. Oui, mais voilà.
Au niveau, je ne sais pas si on peut parler comme ça, si on peut parler comme ça, avec rigueur, mais au niveau, fallait dire ça, psychologique, je pense, et Baudelaire avait toujours des problèmes. C'est comme sa réaction avec l'Olympia, par exemple, et d'une certaine façon, est pareil à sa réaction avec le socialisme de Courbet, il dit et clairement, parce que j'ai dit sa relation avec l'Olympia, parce que bien sûr, Baudelaire savait que Courbet fut un grand peintre, mais il écrit, il prend pas Courbet comme un génie, parce qu'il déteste le socialisme des paysans. Et bon, je ne sais pas comment le dire en français, parce que je n'ai pas le texte de la hausse, cet instrument que tu utilises pour couper. Le socialisme de la, ça veut dire le socialisme de sans politesse, le socialisme de la violence, et donc dans son jugement critique sur Courbet est filtré cet détachement de ce type de choses, non? Courbet fait la personnalité contraire, non? Courbet fait quelqu'un qui discutait avec Proudhon, mais qui ça veut dire qui est les premières en tomber la colonne Vendôme, mais ce type de choses, non? Mais Baudelaire se détache de ça, et même si au niveau artistique c'est impensable penser que Baudelaire aimait pas Courbet, mais il apparaît dans l'atelier, c'est un peu comme chez Manet, mais il se détache clairement, au niveau de ce type de manque de politesse, de violence, de ce type de socialisme, il déteste.
Moi, je ne pense pas que ça soit effectivement une question psychologique, comme tu le dis. Je pense que c'est tout à fait. Enfin, je pense que, bien sûr, il y a naturellement quelque chose de psychologique qui relève du sujet Baudelaire. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui. Enfin, en tout cas, on peut y percevoir autre chose, qui est que, tout simplement, si, comme tu le dis, et ça, je le crois profondément, Baudelaire est vraiment un critique d'art. C'est un homme qui est amoureux des images. Ce qu'il veut, c'est trouver des images. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui veut trouver des images? Ce qu'il aime vraiment, c'est la réalité. Et au fond, ce qu'il n'aime pas dans ce socialisme de Courbet, c'est qu'au fond, c'est une interprétation de la réalité. Hein, c'est-à-dire, c'est pas la réalité. Lui, ce qu'il veut, hein, c'est les images telles qu'elles sont, toutes crues d'une certaine façon dans le réel. Et en ceci, c'est pas une question psychologique, c'est une question que le réel, il le voit comme beaucoup plus, non pas d'ailleurs déchiré par des tensions, parce qu'il n'est pas du tout dialecticien, d'une certaine façon, Baudelaire, hein, mais il le voit comme beaucoup plus hétérogène. Moi, je pense que quand même, Baudelaire, c'est un. Il suffit de lire Baudelaire, hein, la prose de Baudelaire, qui est d'une étrangeté, hein, c'est ce que je te disais l'autre jour, moi qui m'a toujours semblé être une des proses les plus barbares, effectivement, de la langue française au sens d'une hétérogénéité linguistique. Hein, c'est une langue extraordinairement composite. Où il y a des moments qui sont des moments gothiques dans la langue, hein, des moments qui sont des moments ronsardiens, des moments qui sont des moments à la Marivaux, hein, des moments qui sont des moments où on se dit mais c'est de la barbaque à l'intérieur de la langue. Hein, c'est vraiment donc un style de l'hétérogénéité. Et évidemment, tout ça étant parfaitement évidemment conçu, hein, je veux dire, c'est évidemment pensé comme quasiment, disons, il n'y a quasiment pas de lyrique aussi pensée que celle de Baudelaire. Donc voilà, donc tu vois, moi je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ton affaire, parce que plus j'y réfléchis, plus ça m'intéresse en fait. Parce qu'au fond, dans cette idée de la troisième modernité, il y aurait, au-delà même de ça, il y aurait une perspective sur, au fond, quand on parle de l'amour, de l'historicité chez Baudelaire, hein, par exemple Benjamin, hein, peut-être qu'on a encore, peut-être que Benjamin avait encore un schéma trop hegélien, hein, une représentation trop hegélienne de ce que serait, disons, l'histoire comme le cœur palpitant, tu vois, hein, d'une espèce de vie qui, tu vois, c'est comme ça le modèle, hein, c'est, bon, de quelque chose d'organique, tu vois. Et il me semble que chez Baudelaire, il n'y a pas cette organicité de l'objet historique, et que c'est peut-être là qu'il faut trouver un autre type de réflexion sur la modernité. Enfin.
En même temps, je ne veux pas une fois qu'à parler, parce que je pense que... Rien à dire, c'est tout à fait très intéressant. Bon, ce que tu dis est vraiment très, très intéressant. En plus, peut-être un regard qui prend, par exemple, les choix concrets de Baudelaire en matière de goût, comme quelque chose avec une substance par eux-mêmes, et peut-être aussi essayer de parler d'une façon un peu moins compréhensive, non, comme si tu fous engager. Simplement, mais ce que c'est, peut-être j'ai dit psychologique simplement pour me défendre, pour dire qu'il ne faut pas quelque chose vraiment très très pensé ou vraiment très, très argumenté. Non, bon, c'est ce que je voulais dire, simplement, c'est que l'aristotélisme, c'est un peu de la rhétorique par Ludovico Dolce, qui devient comme devient le modèle du classicisme jusqu'à les années 40 du 19e siècle, exactement dans le moment où va apparaître aussi la technologie de le spectacle, comme a décrit Jonathan Curry. Non, c'est vraiment très intéressant de penser cette histoire d'une façon différente. Ça, pensez pas la dissolution de la tradition classique comme l'origine de la modernité formaliste, mais la dissolution de la tradition classique comme l'origine de le spectacle. Et le modernisme du symbolisme Greenberg comme la réaction, une fausse réaction, peut-être aussi la première culture de le spectacle, que je pense qu'on peut trouver clairement.
Avec Baudelaire, on a affaire à une espèce d'énumération de problèmes, de défaillances. C'est-à-dire que on le voit comme on le lit comme le formulateur du paradigme moderniste. Or, il est obsédé par le passé. Il parle d'héroïsme, mais lui-même est un loser au fond. Il rate la photographie comme il rate Manet. Au fond, on pourrait énumérer une liste d'adjectifs comme ça où il se plante, il n'est pas la bonne personne, il n'est pas au bon endroit, etc. Et malgré tout, c'est intéressant. Je me dis qu'il y a un truc là. Il tourne autour d'une espèce d'inconsistance, et c'est sûrement là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est précisément parce que c'est inconsistant que il. Je ne sais pas comment dire, il a une espèce de vision à la fois de la déchéance et de sa propre déchéance, quoi, ou de quelque chose qui déraille, qui défaille, ou qui. J'ai l'impression que c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on énumère un certain nombre de défaillances, bien plutôt que de choses qu'il n'aurait pas vues, qu'il n'aurait pas comprises, qu'il.
Bon. Ça dépend. Ça veut dire la critique sur Baudelaire comme critique d'art. Surtout Félix Lick, qui avait c'est sur Baudelaire, on était publié à Cambridge, qui avait vraiment construit, par exemple, l'idée d'un système esthétique chez Baudelaire, absolument organisé, concret, surtout par rapport au Salon 1846, et aussi les interprétations de ce que Baudelaire veut dire, quand il utilise le terme modernité, on devient quelque chose comme un lieu, un lieu commun, non? Et le problème est que, si, je pense que le problème vient quand on pense Baudelaire, au milieu d'une transformation qui n'est pas exactement ce mouvement. Je pense que le problème est comment reconstruire cette histoire d'une façon différente si on pense que le 19e siècle est beaucoup plus complexe et si bon, on essaie de lire dans les mêmes textes de Baudelaire, mais des autres affirmations qui ne sont pas les plus communes. De toute façon, je pense qu'il y a. Plus ou moins une structure claire. Il y a un premier Baudelaire en 1846 qui, confiant au progrès, à l'utopisme, à l'éducation à travers de l'art, un romantique dans le bon sens, on va le dire comme lui, non, ou quelque chose comme ça, et qui croit dans l'individualisme, bien entendu, comme il parlait, et ça existe, c'est concret, et après vient la dissolution de ça. Et avec la dissolution de ça, on trouve différents chemins. Et il essaie de reconstruire quelque chose comme ça, mais je sais quoi. Non? Et une façon d'interpréter ça a été, bon, la modernité. Ça veut dire, la modernité veut exactement dire la recherche du nouveau et l'abstraction formelle. Mais on ne voit pas que ça soit si évident, non? Oui. Donc, c'est ça la chose. Je pense que le premier Baudelaire est relativement facile. Mais le deuxième, en 1859, et après surtout ses commentaires sur la photo aussi, non, et comme il déteste, après ça, c'est quand les problèmes arrivent, non, mais je pense que les problèmes arrivent aussi parce qu'une constellation historique complète est un peu faible maintenant, non, on est au milieu de rien. Depuis, au niveau symboliste, Émile Bernard va définir Baudelaire comme la critique de l'abstraction, et comme ça, on va continuer. Non, va continuer. C'est ça que j'essaie de faire, non? Si on peut vraiment arriver à construire un peu.
Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est dissonant dans la perception ou la conception de Baudelaire comme le prototype du moderne ou du moderniste, alors même qu'au fond, ce qui apparaît, c'est sa barbarie, quoi. C'est-à-dire le type peureux, enfin, etc. Mais qui. Enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est.
Bon, de toute façon, c'est la chose d'essayer de comprendre quelqu'un qui n'est pas systématique, non? Aussi, bon, c'est simplement toujours tu te trompes, non? Il faut faire aussi des choix, non? Et c'est pas facile, c'est pas évident de construire cette architecture, non? C'est pas Kant, non? C'est clair. Bon, c'est une autre chose.
Est-ce qu'il y a des questions maintenant destinées à Gabriel ou des signaux et des questions par rapport à. Non. Bon, alors je vous propose qu'on se donne 10 minutes de pause. Vraiment, je remercie infiniment Gabriel parce que c'était extraordinairement intéressant, vraiment formidable. Ça nous donne un matériau de réflexion vraiment considérable pour la suite. Et dans 10 minutes, on prend vos questions, c'est-à-dire on prend les questions sur ce qui a été dit pendant le séminaire. Depuis maintenant, je ne sais plus combien de séances, puisque ça fait maintenant presque une dizaine de séances qui ont eu lieu. Donc voilà.